Vous êtes sur RTL.
On aura beaucoup de sujets, évidemment, mais il y en a un qui est en train de monter parce que dans le journal Le Monde, il y a un grand magazine qui est consacré à Cyril Hanouna et beaucoup de personnalités sont interrogées, notamment Marlène Schiappa. Et Marlène Schiappa a dit ceci, en 2022, c'est lui, Cyril Hanouna, qui devrait co-présenter le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Et elle ajoute, c'est quelqu'un de brillant, Cyril Hanouna, qui connaît la société française, mais il est de bon ton de cogner sur lui, cela relève du mépris de classe. Et ça vous fait réagir parce que Marlène Schiappa est ministre de la République et Cyril Hanouna est un animateur extrêmement connu. Alors Maëlle est avec nous, vous êtes étudiante et je voulais connaître peut-être votre avis. Bonjour Maëlle.
Oui, bonjour Pascal Cron, vous allez bien ?
Écoutez, ça va bien, ça va bien. Vous êtes étudiant en quoi ?
Alors, en école de commerce à l'EDEC.
Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de Marlène Schiappa ?
Bah, vous savez, on dit qu'avant de parler, on devrait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Je crois que Mme Schiappa devrait s'initier et au plus vite. On a quand même une ministre déléguée à la citoyenneté qui ne cesse de faire des bourdes coup sur coup. Je pense qu'il y a quand même mieux à faire au vu de sa fonction, vous l'avez rappelé, ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur, que de faire des TikTok douteux ou des annonces aussi burlesques. Alors, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai rien contre M. Hanouna. Je ne regarde pas son émission, qui parfois flirte dangereusement avec la bienséance. Mais dans ces cas-là, moi, je pose la question. Est-ce que « touche pas à mon poste » devrait donc devenir « touche pas à mon président ». On est chez les fous.
Maëlle, on va essayer de sécuriser la ligne, parce que malheureusement, elle n'est pas extraordinaire. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté que les journalistes parfois sont déconnectés, que l'élite est déconnectée, et de souligner justement un animateur qui sait parler aux jeunes, qui les comprend, qui comprend peut-être leurs problèmes. Effectivement, il n'est pas passé par Sciences Po, effectivement, il n'a pas fait l'ENA, effectivement, il n'a pas fait Normal Sup, mais peut-être, et ça c'est intéressant, serait-il un médiateur ? Et un journaliste peut être aussi un médiateur. Je me fais bien sûr l'avocat du diable, mais c'est des arguments qu'on peut aussi entendre. Jacques est là et on va essayer de sécuriser la ligne avec Maëlle. Jacques, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Moi, je rigole beaucoup de tout ça. Cyril Hanouna, c'est vrai qu'il sait parler aux jeunes. De ce côté-là, il faut pas le nier. Mais je pense que Marlène Schiappa, franchement, il faut qu'elle arrête de dire des conneries, quoi. C'est bon. On est vaccinés. Moi, j'ai rien contre Cyril Hanouna. Mais bon, ils sont quand même, allez, très copains tous les deux. Cyril Hanouna, le portable du président, il l'appelle. Comment ça s'appellerait finalement le débat mené par Cyril ? La grande Darka peut-être aussi, non ?
Non, c'est... Non comment dire ? C'est ce qu'elle dit, c'est intéressant dit, ouais. Parce que c'est ouais. Disruptif, ouais. Comme ouais. On dit. Ouais, je vous signale qu'en Ukraine, par exemple, alors là, c'est pas des animateurs, c'est des... pour l'élection présidentielle en Ukraine, c'est un ancien comique. Pareil, en Italie, il y a eu des hommes importants qui viennent de la société du spectacle. Donc c'est intéressant. Le monde aujourd'hui est comme ça. Donc,
vous savez, Pascal, y a, alors, si on va dans ce sens-là, pourquoi pas ? Mais il y en a un qui serait très très bien et que je trouve très classe en plus. Ben, pourquoi pas Laurent Girard alors ?
Écoutez, je ne suis pas sûr que Laurent y voudrait, mais...
Oui, mais on n'est pas sûr qu'elle nous la voudra non plus.
Alors, non, mais je vous dis, moi, ce que j'aime bien, ce que je relève dans la phrase, c'est même pas la première partie, c'est la deuxième. C'est quelqu'un de brillant qui connaît la société française, mais il est de bon ton de cogner sur lui. Cela relève du mépris de classe. Vous voyez, ça, c'est intéressant.
Ça n'a rien à voir à cogner sur lui. Et vous savez très bien que le succès... au bout d'un moment, ça énerve les gens. Et moi, je me souviens de lui, d'ailleurs, qui était au tout début de sa carrière. Il a travaillé avec Jean-Pierre Foucault sur RTL, dans un jeu à midi. Mais il a une brillante carrière. Et c'est vrai qu'il n'est pas passé par toutes ces grandes écoles. Il connaît la société française. Et moi, je regardais... Alors, je vais vous dire franchement. Je regarde son émission tous les soirs. TPMP, d'accord ? Je parle que du... d'Hanouna. Moi, il me détendait, ce mec. J'avais fini ma journée de boulot, il me détendait. regardait. Il me faisait marrer, à pleurer de rien. Et maintenant, il me fait plus marrer. Mmh. Ces émissions, c'est devenu un petit peu Ciel de Montmardi des années 2021.
Ouais, mais,
il n'y a que des débats.
Bah,
il n'est pas terrible dans les débats.
Mais d'abord, il est excellent dans les débats. Et puis, alors, moi, je suis ennuyeux parce que, effectivement, je le dis parce que je suis toujours pour la transparence. Je travaille aussi dans un groupe dans lequel Cyril Hanouna est présent, qui est le groupe Canal+.
Je sais. Il n'y a pas de problème.
C'est un charmant confrère, pour tout dire, et il a évidemment du talent et de la qualité. Mais le débat, il n'est pas là. Le débat, c'est ce que dit Marlène Schiappa. C'est ça qui m'intéresse. Merci Jacques, en tout cas, de ce premier avis.
Merci.
Et de ce deuxième, puisque nous avions eu Maëlle. On va peut-être marquer une première pause. Nous allons... saluer Monsieur Béchiot qui est là aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour tout le monde.
Et merci d'être avec nous. Donc la pause et nous revenons.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est vendredi, il fait beau.
Tout est permis.
On va pouvoir aller, pourquoi pas, sur la plage, si elle est à 10 km de chez vous.
Ah oui.
Autrement, vous la regarderez en carte postale. Bonjour Laurent Tessier.
Ou à la télévision. C'est la phrase de Marlène Schiappa dans Le Monde qui vous fait réagir au 32-10 en 2022. C'est Cyril Hanouna qui devrait co-présenter le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Jacques a été l'un des premiers à réagir il y a quelques instants au Standard.
Cyril Hanouna, c'est vrai qu'il s'est parlé aux jeunes de ce côté-là. Il ne faut pas le nier. Mais je pense que Marlène Schiappa, franchement, il faut qu'elle arrête de dire des conneries, quoi. C'est bon.
On marche sur la tête, écrit Carole sur les réseaux sociaux. Ils sont tous les deux amis, hein. Ce n'est pas possible. Un peu de sérieux, Marlène Schiappa, lance Aurélien. Votre remarque n'est pas très agréable pour l'ensemble des journalistes. Mais après tout, pourquoi pas, réagit Gérard. Cyril Hanouna a un franc-parler qui pourrait rendre les débats intéressants.
Merci Laurent. Fouad est avec nous. Bonjour Fouad, vous êtes enseignant à Strasbourg.
Bonjour.
Et merci de témoigner sur cette idée de Marlène Schiappa qui, je pense, fera... D'ailleurs, on le voit bien déjà, c'est l'avantage aussi de Marlène Schiappa, elle fait parler d'elle. C'est qu'elle propose des choses qui peuvent surprendre, mais qui prêtent à la discussion. Et c'est ça qui est intéressant.
Bah oui, en fait, moi, par rapport à cette histoire, avec ce que j'entends depuis le début de l'émission, c'est qu'on est face à un vrai paradoxe français. C'est-à-dire qu'en France, on condamne souvent justement l'entre-soi, le microcosme, les gens qui viennent des mêmes milieux. Mais dès qu'on sort de cet entre-soi, vous voyez bien qu'il y a une levée de bouclier. Après, je comprends, je pense que les Français aiment bien le côté un peu solennel, surtout lors de la présidentielle. Moi, j'ai tendance à dire que j'attends un peu les élections présidentielles, un peu comme j'attends la Coupe du Monde de foot, quoi. C'est-à-dire, c'est rare, tous les 4-5 ans, et c'est un moment où tout le monde est rivé, la plupart des gens sont rivés devant leur télé. Et c'est vrai que je ne sais pas si je comprends qu'on puisse imaginer que Cyril Hanouna ne puisse pas incarner cette forme de solennité, quoi.
Non, mais le fond de la discussion, c'est est-ce que des journalistes passés parfois par les mêmes écoles que ceux qu'ils vont interroger. Est-ce que ces journalistes surcultivés, pourquoi pas, surdiplômés sans doute, est-ce qu'au fond, ils sont moins le représentant des gens qui écoutent, du public, qu'un animateur qui s'est touché, qui par son parcours, par ses émissions, parce qu'il est peut-être moins cultivé, parce qu'il il peut poser des questions, il n'a pas honte de poser des questions que le public se pose. Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'il peut être un meilleur médiateur, un meilleur passeur ?
J'ai pas le sentiment que sur ce que je regarde sur les réseaux sociaux, j'ai vu très très peu de messages qui soient favorables. Je crois que ce que je vous ai dit tout à l'heure, le moment solennel, je crois qu'en fait les Français aiment ce côté-là. Mmh. Et il suffit de voir que finalement Cyril Hanouna, je crois pas qu'il fasse des audiences au-delà de 2 millions de spectateurs. Alors que parfois des grands débats, on arrive à monter au-delà de 5-6 sur France 2 avec des journalistes un peu traditionnels.
Oui, quoi, des débats de 5-6 sur France 2 hors campagne électorale,
oui,
c'est pas fréquent. Hein,
mais
c'est
pendant
pas
les
fréquent.
Campagnes, et c'est les journalistes qu'on voit depuis parfois des décennies qui sont présents, font plus d'audience que Cyril Hanouna en réalité. Donc je pense qu'on surestime un peu l'impact des émissions de Cyril Hanouna.
En tout cas, s'il animait ce débat, j'ai envie de dire que l'attraction, et c'est ça qui est peut-être un peu pervers, ce serait davantage l'animateur que les deux débatteurs.
Oui.
C'est-à-dire, on se dirait, comment ça va se passer ? C'est vrai que ça serait étonnant quand on se souvient de la rigueur et de la pompe du premier. Le premier débat, c'est en 1974, et c'était Alain Duhamel Et je crois que c'est Jacqueline Baudrier, le premier débat. Je ne pense pas que ce soit Michel Cotta. Michel Cotta, c'est en 81, avec Alain Duhamel de nouveau. Donc c'était assez sérieux, effectivement. Et on n'imaginait pas l'animateur de l'époque, on n'imaginait pas Guy Lux ou un autre animateur se plier à ce type de fonction. Merci Foued, merci beaucoup. On va être avec Roland. Bonjour Roland.
Bonjour.
Et merci d'être avec vous. Alors, je rappelle pour ceux qui arrivent à l'instant à l'antenne, nous réagissons sur la petite phrase de Marlène Schiappa dans un portrait, long portrait d'ailleurs, qui est écrit sur Cyril Hanouna. Elle a dit en 2022, c'est lui qui devrait co-présenter le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. C'est intéressant parce qu'elle parle d'elle-même aussi, parce qu'elle, elle est hors-circuit par rapport à... Elle n'est pas passée par l'ENA, elle n'est pas surdiplômée comme d'autres. Donc c'est intéressant de son point de vue de ce regard-là, Roland.
Oui, tout est intéressant à entendre et je viens d'entendre différents points de vue. Sauf qu'il y a un vieil adage qui dit chacun son métier et les cochons seront bien gardés. Il y a, pour concernant Cyril Hanouna, moi j'ai aucune animosité contre ce garçon. Je précise que j'ai 69 ans, donc je suis encore en mesure de comprendre et d'analyser un certain nombre de choses. Mais j'ai jamais pu regarder une émission jusqu'au bout de Cyril Hanouna. Bon, ça, j'allais dire, il en faut pour tous les goûts. Par contre, je vous regarde avec grand bonheur sur CNews tous les soirs quand vous êtes là. Et vous êtes souvent là. Et pour en venir à ce, je trouve que, bon, c'est pas la place. Enfin, si Marielle Schiappa voulait faire parler d'elle, bon, c'est réussi, bravo. Mais c'est quand même, j'allais dire, la solennité d'un débat. Alors effectivement, vous disiez, bah oui, bien souvent, ceux qui interrogent ont fait les mêmes écoles, ceci et cela. Enfin, alors à ce moment-là, si on veut pas, comme apparemment le président et ses ministres sont les adeptes des assemblées tirées au sort. Bah, à ce moment-là, ils ont qu'à tirer au sort pour le deuxième tour un panel d'auditeurs ou de téléspectateurs. Et puis, pourquoi pas, avec un peu de chance d'ailleurs, on peut même aider la chance, M. Hanouna pourrait être tiré au sort. Mais c'est tout.
Alors, je ne sais pas s'il doit animer le débat, mais en revanche, ce dont je suis sûr, c'est que les hommes politiques ont raison d'aller dans son émission pour parler à un public auquel il ne parlerait pas s'il n'allait pas précisément dans cette émission.
Peut-être. Alors, peut-être. Alors, il y a quelque chose, moi, qui me dit... il sait parler aux jeunes. Alors, moi, je vais vous dire, je suis en tant que directeur général de Centre éducatif renforcé. J'ai eu des jeunes un peu déconstruits qu'on a essayé de reconstruire. Ça veut dire quoi, savoir parler aux jeunes? Et puis, on ne peut pas leur parler pendant 5 minutes. Un jeune, ça se construit au fil du temps. Alors, moi, j'attends ce qu'on me... Parler aux jeunes, ça veut dire quoi? Je ne sais pas.
Hein? Bah écoutez, c'est d'avoir parler aux jeunes, c'est d'avoir leur langage, c'est d'avoir leur connexion. C'est d'avoir leur connexion, c'est de connaître leur centre d'intérêt.
Oui,
c'est de
oui.
savoir ce qui les motive. C'est un peu pareil. Et c'est ça au fond
parents,
parler aux jeunes.
Vous êtes parents vous-même. Vos enfants, vous vivez avec eux quand même.
Bah ils ont 26 et 27 les grands.
Vous savez ce qui les motive.
Oui,
les parents évidemment.
On sait pas tout.
Non, bah heureusement, il y avait une part de secret, jardin secret qu'il faut garder, heureusement. Mais ça me paraît qu'il faut des spécialistes pour tout, décoder ce que les jeunes pensent, ce que les vieux pensent, que les moyens passent. Enfin bon, tout ça, ça me paraît un peu... il n'y a pas beaucoup de bon sens, de placer ce bon sens dans tout ça, et en tout état de cause. Que M. Hanouna continue son métier de saltimbanque, et ce n'est pas péjoratif.
Non, c'est un joli mot en plus, saltimbanque.
Comment ?
C'est un joli mot, saltimbanque.
et donc, tout ira bien. Alors,
merci.
Si Mme Schiappa a besoin d'appui, de relais supplémentaires, ma foi, qu'il s'engage carrément aux côtés de M. Macron pour la prochaine campagne, au moins les choses sont claires.
Merci Roland pour ce témoignage. Et on va essayer de trouver quelqu'un qui est favorable à l'animation de Cyril Hanouna. Débat de la présidentielle, je le rappelle, et je crois que Damien sera dans ce cas-là. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Damien est donc là. Bonjour Damien qui habite Toulouse et qui veut réagir sur cette proposition tellement étonnante. Vous voyez, je n'imaginais pas en se levant ce matin que nous aurions comme débat durant Les Auditeurs ont la parole une proposition de Marlène Schiappa qui suggère que ce soit Cyril Hanouna qui présente le débat de l'entre-deux-tours de la prochaine présidentielle. Oui, bonjour Damien. Sûr.
Bonjour Monsieur Pro, merci de me donner
bonjour,
la parole.
Je vous en prie.
Oui, moi je suis totalement positif pour cette idée-là, dans le sens où Cyril Hanouna est un assez grand médiateur, parce qu'on l'a vu sur les gilets jaunes, notamment concernant les vaccins là par rapport au coronavirus. Tout le monde vient sur son plateau pour parler. Il est suivi par à peu près 1,5 million de téléspectateurs tous les soirs. Donc je pense que ça pourrait emmener l'écoute à beaucoup d'une population un peu plus élargie, parce que quand sur les années précédentes, quand il y a eu les débats politiques. C'était difficile de tout comprendre en fait. En tout cas pour moi qui n'ai pas un très haut niveau scolaire, c'est complètement difficile de tout comprendre. Alors que Hanouna arrive à poser les questions d'une manière un peu plus simple, on va dire, pour que tout le monde puisse le comprendre. Et il a les questions de tout, entre guillemets, d'une grande part de la population française. Enfin, je trouve que hier vous avez utilisé un mot, vous avez beaucoup aimé la providence. Je pense que Hanouna est sur la providence de la France.
Mais moi, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites, Damien. Marlène Schiappa, elle a également ajouté ceci. Elle a dit, c'est quelqu'un de brillant qui connaît la société française, mais il est de bon ton de cogner de lui. Cela relève du mépris de classe. Est-ce que vous trouvez qu'effectivement, vous venez de dire que vous n'avez pas un niveau scolaire très élevé. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une forme de mépris de classe, parfois, qui peut vous toucher, vous d'ailleurs, Damien, ou d'autres, sur ceux qui n'ont pas fait les études et qui n'ont peut-être pas fait qui ne possèdent pas les codes que les hommes politiques ou les journalistes connaissent, qui savent s'exprimer, qui ont de la culture, qui ne font pas de fautes d'orthographe. Mais ils n'y peuvent rien, j'ai envie de dire, c'est simplement parce qu'on leur a appris. Alors, ils n'y peuvent rien. Ils ont fait des efforts, ils ont travaillé, bien sûr. Mais ils sont parfois, disons-le, nés dans un milieu plus favorable où la culture était plus présente.
Oui, mais après, ça ne veut rien dire, parce que moi, je viens d'une famille très, très correcte, avec des gens qui travaillent au CNRS et tout ce qui s'ensuit, à Orsay. Donc non, ça c'est un choix personnel de ne pas avoir fait d'études. Ça ne m'a pas empêché de travailler, d'avoir un restaurant à mon nom et de travailler.
Mais le mépris de classe, c'était ça qui m'intéressait.
Moi je le ressens pas. Après, ce que je ressens moi, au niveau de mon entourage, des gens qui travaillent à Airbus et dans pas mal d'autres endroits, ils critiquent sur Hanouna, mais le soir quand on boit l'apéro chez eux, en général la chaîne qui est allumée c'est Hanouna. Donc les gens critiquent parce que Hanouna, voilà, c'est on l'aime ou on l'aime pas du tout, mais ça n'empêche que quand il invite des gens chez lui, tout le monde est à l'écoute parce qu'il y a des conversations qui sont quand même très très intéressantes et très intelligibles. C'est-à-dire que les discours qui se font, il y a le pour et le contre. Donc du coup, il y a un peu toute la population française qui est autour de la table.
Donc pour vous, c'est un bon médiateur. Il rend intelligible, pour reprendre le mot que vous avez utilisé, il rend intelligible des idées. Des concepts, pourquoi pas, qui ne le sont pas forcément et qu'il traduit d'une manière populaire pour que les gens comprennent.
Exactement. Notamment pour les gilets jaunes, quand il a fait venir tous les gilets jaunes sur son plateau, il y avait plein de gilets jaunes pour qui j'étais pas du tout en accord, même extrêmement pas en accord, quand quelqu'un fume une cigarette et qu'il a un téléphone à 1 200 euros, qu'il aille sur le rond-point, j'ai un peu de difficulté. Mais le fait qu'ils aillent sur le plateau pour s'exprimer, ça permettait d'ouvrir nos œillères, entre guillemets, de moins être bornés sur une idée et de mieux comprendre. Donc moi, je pense que si il interroge les futurs, les politiques qui vont venir sur son plateau sur le deuxième tour ou le premier tour, ça permettra à la population comme moi qui s'intéresse entièrement à la politique de comprendre plus de choses et de mieux s'orienter sur le vote.
En tout cas, vous êtes très nombreux à appeler. Hein. C'est ça qui me frappe, moi. C'est à la fois un sujet complètement anecdotique, bien évidemment. Il y a des sujets aujourd'hui un peu plus importants, d'une certaine manière. On a dit Emmanuel Macron sera-t-il réélu en 2022. La conquête spatiale, c'est un autre sujet. Le protocole strict dans les écoles, c'est encore un troisième sujet. L'école maternelle ravagée par le feu hier soir, vous pourrez réagir. Les Girondins de Bordeaux également. Mais je m'aperçois que les auditeurs, depuis 25 minutes, n'appellent que sur ce sujet. Et on avait Maël tout à l'heure, ça passait mal. J'espère que ça passe un peu mieux. Maël, bonjour.
Oui, vous m'entendez mieux, Pascal ?
Oui, vous êtes donc étudiant, donc on vous avait coupé, vous trouviez que c'était une farce, Maël, pourquoi ?
Alors oui, c'est une farce, moi j'écoute depuis tout à l'heure ce que les auditeurs sont en train de dire. Alors oui, il y a du vrai, il y a du faux, moi j'ai 20 ans, c'est vrai que Monsieur Hanouna pourrait effectivement s'adresser à une strate de la population qui est plus jeune, auquel il peut s'adresser plus facilement. Mais pourquoi dans ces cas-là on parle de Cyril Hanouna, on ne parle pas de Yann Barthès ? Voilà. Mais d'un autre côté, je me dis, comme l'a dit quelqu'un, mais je suis d'accord avec cela aussi, c'est le côté très solennel qu'a ce débat d'entre deux tours. Dans ces cas-là, si Marlène Schiappa va jusqu'au bout de son idée, soit dit en passant, elle se met un petit peu juste un coup de projecteur, comme d'habitude, mais si elle va jusqu'au bout de cette idée, le binôme, dans ces cas-là, ce sera qui ? Florence Oresti, comme elle a présenté au César. Enfin, moi, je trouve que c'est dénaturer, malheureusement, un débat qui mérite quand même un peu plus de crédibilité. Et si vous me permettez, Monsieur Pro, je pense que le vrai fond de la question, c'est pas tant de la question de qui animera et co-présentera, c'est plutôt la question de est-ce que les politiques aujourd'hui sont capables d'avoir un langage, d'avoir une méthode d'expression qui parle à tout le monde sans mépriser qui que ce soit. Je pense qu'il est là le vrai problème. Et aujourd'hui, Madame Schiappa...
Et vous avez le sentiment contraire ?
Moi, j'ai le sentiment contraire qu'aujourd'hui, les politiques sont effectivement décalés d'une réalité. On le voit quand M. Macron nous parle avec un déni assez spectaculaire, alors que d'autres...
Par exemple ?
Ben, quand il fait des petites phrases, quand il lève les yeux au ciel, par exemple. Je pense que c'est quand même pas digne d'un président de la République.
C'est-à-dire, il a levé les yeux au ciel quand ?
Il avait levé les yeux au ciel lors d'une conférence. Il était exaspéré par les questions d'un journaliste et il avait levé les yeux au ciel.
Vous trouvez ça normal ? Moi, je trouve pas ça. Je trouve que c'est un être humain et qu'il a le droit de lever les yeux au ciel. Mais ce que je pense n'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez, vous.
Oui, mais tout à fait. Et c'est ce que je disais, c'est que finalement, vous l'avez dit, Madame Schiappa est quand même ministre déléguée au ministère de l'Intérieur et elle devrait peut-être s'occuper de sujets un peu plus importants. Je pense qu'elle a quand même du pain sur la planche au vu de la délégation qu'elle a. Elle ferait mieux de parler de laïcité dans les écoles, elle ferait mieux de faire des propositions sur la citoyenneté ou alors d'écouter tout simplement les députés, les Républicains qui eux se démènent sur ces questions de la citoyenneté. Moi j'ai l'impression qu'on a quand même des ministres qui sont fantoches, elle veut juste un coup de projecteur. Permettez-moi cette comparaison, un petit peu comme au cirque quand Monsieur Loyal présente ses clowns. Et je pense que Madame Schiappa, au lieu de nous faire des petites phrases et des petites bourdes qui font à chaque fois polémique, elle ferait mieux de s'occuper des sujets qui sont beaucoup plus importants dans le débat.
Merci.
Public.
Merci beaucoup Maëlle. Une pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier, on pourrait rappeler d'ailleurs quels sont tous les journalistes qui ont animé depuis 1974 tous ces débats, ces grands débats. Et le premier, c'était donc Alain Duhamel et Jacqueline Baudrier.
Oh, bien vu. C'était en quelle année ?
74. La première fois qu'il y a eu un débat, c'est 74. Et à la télévision américaine, le premier débat, je pense, c'est Nixon-Kennedy pour l'élection de 1960.
Et vous pourrez continuer évidemment de réagir à cette phrase de Marlène Schiappa sur Cyril Hanouna. Je vous propose d'aller dans quelques minutes à plusieurs centaines de kilomètres. La fusée SpaceX a décollé du centre spatial Kennedy en Floride à 11h49. Quatre astronautes à bord, dont Thomas Pesquet, direction la Station Spatiale Internationale. Ces aventures vous passionnent-ils ? Pour Benjamin, voir la Terre depuis l'espace doit être magnifique. C'est une grande fierté pour Patricia de voir Thomas Pesquet dans cette aventure. Un Français qui est resté humble. Fierté partagée par Thierry sur nos réseaux sociaux. Il va nous faire briller dans l'espace. Bravo Thomas, un homme généreux, tellement humain. Mon fils a 8 ans, c'est un fan inconditionnel. Merci pour ces moments magiques. Et la conquête spatiale a de quoi faire rêver, écrit Ouria. Elle donne un aperçu des immenses compétences de l'humanité.
On va peut-être pas parler que d'Hanouna quand même pendant toute l'émission, même si les appels continuent d'affluer.
C'est vous qui faites le menu. Hein.
Ben, là, exactement. Qui est là ? Laurent est là ?
Oui, bonjour Pascal. Laurent au téléphone.
Bonjour Laurent. Vous habitez Lille, vous êtes commercial. Qu'est-ce que vous en pensez d'Hanouna comme animateur pour le débat d'entre deux tours ?
Alors, depuis tout à l'heure, je ressens un grand dénigrement de la part, enfin, à l'encontre du peuple, en fait. La question pour moi, c'est pas dire c'est Hanouna ou rien, c'est dire que Hanouna peut proposer quelque chose de complémentaire et de différent à ce qui se fait actuellement. Hanouna, c'est quelqu'un qui présente l'émission BTP, il est tout le temps sur le podium au niveau des audiences TNT, ces plateaux sont plutôt bien tenus. Il y a des vraies divergences de points de vue. Moi, je suis pas du tout fan de Marlène Schiappa, par exemple. Mais force est d'admettre, au moins, qu'il permet à des personnes qui ne se sentent pas concernées par les débats publics de pouvoir se sentir
Oui, mais c'est pas ça la question.
Concernées.
Que Hanouna reçoive des hommes politiques durant la campagne, c'est pas ça. La question, c'est le débat de l'entre-deux-tours. C'est toujours un moment particulier, solennel, oui. qui peut être historique, qui peut d'ailleurs faire pencher. Ça s'est vu dans le passé, l'élection d'un côté ou de l'autre. Donc une oui. ministre de la République qui dit c'est lui qui doit animer ce débat. C'est ça qui
oui,
nous intéresse.
Il ne sera pas tout seul déjà.
Bah, il serait deux.
Quoi, voilà.
Il serait deux. Après, il y a généralement deux animateurs.
Même, si c'est pour avoir le même débat que depuis 1974, je suis en 81, donc c'est une date qui parle dans les élections présidentielles, mais si c'est pour avoir les mêmes présentateurs qui ont fait Sciences Po, qui intéressent les gens, qui ont fait l'ENA ou Polytechnique, je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, la population française cherche à avoir du changement.
Et oui, mais moi, je veux bien que les journalistes de foot ne connaissent pas le foot, mais les journalistes politiques, ils passent par Sciences Po, bien sûr, parce que c'est plutôt mieux de connaître ce dont on va parler.
Ah, mais ça, je ne dis pas le contraire, mais il suffit juste de regarder Balance ton poste pour se rendre compte que Hanouna sait de quoi il parle, il potasse ses sujets. Et vous-même, vous êtes un exemple, puisque vous avez été journaliste sportif. Et aujourd'hui, ça ne vous empêche pas quotidiennement de faire des émissions politiques en sachant de quoi vous parlez.
Je suis d'accord avec vous, mais par rapport à Cyril, Cyril, c'est un animateur qui anime des émissions. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les frontières sont parfois tenues entre le journalisme et le spectacle et l'animation. Je suis d'accord avec vous. Et Balance ton poste est un bon exemple d'une émission où il est à la frontière, parce qu'on peut dire qu'il fait œuvre d'animation journalistique, Cyril Hanouna, c'est incontestable. Mais, comment dire, mon ADN n'est pas le même au départ. Lui, c'est un homme de spectacle quand même, c'est un animateur. Alors que moi, je suis à la télévision ou à la radio, mais j'aurais pu être à la presse écrite.
Alors, je comprends bien.
Je l'espère, en tout cas.
Je pense qu'aujourd'hui, justement, on parle beaucoup de méritocratie. La méritocratie, c'est aussi le fruit d'expérience. Et d'ailleurs, le gouvernement en place, je ne suis pas du tout macroniste, et encore, peu importe. Mais je pense que le fruit d'expérience est important et qu'aujourd'hui, mener un questionnement, ça ne passe pas forcément pour une école de journalisme et ça peut être un complément. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on met zéro journaliste au débat.
Mais là, on n'est pas un complément, il sera en première ligne. Là. Vous voyez, c'est pas. C'est pour ça que je rebondis sur le mot complément. Complément, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il fait une émission où il accueille aussi des hommes politiques. Là, c'est autre chose. Il n'est plus en complément. Là, il est au centre du débat.
Oui, je comprends bien. Si on prend une boîte de nuit, le videur est en complément de tout le personnel. Et pour autant, s'il n'y a pas de videur, il n'y a pas de boîte. Et je pense que s'il y a un binôme à la tête d'une élection, enfin, un débat présidentiel, pour moi, c'est un binôme. Après, celui qui est devant ou derrière, peu importe. Mais les questions, je pense qu'il y a une vraie... En tout cas, il y a une vraie problématique qui est lancée par Marlène Schiappa. Est-ce qu'on veut, comme d'habitude, Nathalie Saint-Cricq et Alain Duhamel pour faire le débat de l'entre-deux-tours?
Et vous, moi, vous trouvez qu'il y a un côté mépris de classe, parfois, pour ceux précisément qui n'ont pas fait ou Sciences Po ou...
Ah ben, tout à l'heure, alors je prends l'exemple tout à l'heure, vous avez un auditeur qui a parlé de saltimbanque. Ça reste un saltimbanque qui reste dans sa classe, qui reste dans ce qu'il est fait pour... Ben non, pourquoi on ne pourrait pas sortir? Pourquoi M. Hanouna, quand il va poser une question à celui qui nous représentera et nous dirigera, même si normalement le président préside et ne dirige pas, mais pourquoi, à ce moment-là, ce ne serait pas quelqu'un plus proche des préoccupations
du peuple? C'est ce que j'ai dit, mais j'entends ce que... Je trouve qu'il y a des arguments. Je suis d'accord avec vous. Quelqu'un qui... on parle souvent des élites qui sont déconnectées et parfois des journalistes qui le sont également. Et là, vous avez un animateur qui peut-être l'est moins. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que... Il y a toujours discussion. On ne sait pas comment sont les uns et les autres. Est-ce qu'ils sont déconnectés ou pas de la vie réelle? C'est quoi d'ailleurs être déconnecté? Je voudrais qu'on me définisse, moi. C'est quoi être déconnecté? Il est parti, Laurent? Je vous pose question. C'est quoi être déconnecté de la vie réelle?
Vous m'entendez?
Oui. C'est quoi être déconnecté? Ben, vous allez y répondre après la pause, si ça ne vous ennuie pas. Question toute simple. C'est quoi être déconnecté de la vie réelle?
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est 13h38 et je posais la question à Laurent, puisqu'on sait le reproche qui est fait parfois aux hommes politiques et pourquoi pas parfois aux journalistes, d'être déconnecté. Donc je vous pose une question toute simple. C'est quoi être déconnecté?
Ah ben moi ça se matérialise en deux phrases. Hein. C'est quand le gouvernement nous explique qu'il faut faire un couvre-feu parce qu'il y a un effet apéro. Il suffit juste de vivre chez les gens pour savoir que la semaine, sauf rares exceptions, le soir à 18 ou 19 heures, quand on a fini sa journée, on s'occupe des enfants, du chien, des courses, et certainement pas de l'apéro. Hein. Ça, c'est première chose. Après, c'est aussi quand on explique à un chômeur qu'il n'y a qu'à traverser la route pour trouver du travail. Il suffit juste d'être rentré une seule fois dans un centre Pôle emploi pour se rendre compte que la situation est beaucoup plus complexe que simplement « il n'y a qu'à ». Ça, c'est de la déconnexion.
Merci Laurent. C'était votre réponse à une question qui était simple. Merci beaucoup Laurent. Nous sommes avec Gigi. Gigi. Pascal. Gigi Lamoroso.
Si, ah, oh, Pascal. Oh là là, depuis le temps.
Ah ben, depuis le temps qu'on ne s'est pas vu ou depuis le temps que vous êtes
Non, mais c'est extraordinaire de vous avoir en ligne.
Ah ben, j'en suis bien content, Gigi.
Oh, ben écoutez, on vous regarde, on vous entend et c'est un réel plaisir. Mais alors là, c'est carrément, on est dans le live total. C'est formidable. Ce n'est pas le week-end que je vais passer.
Bon, je vous remercie, Gigi.
C'est génial.
Je rougis. Vous habitez Troyes. Vous habitez Troyes.
Ouais.
Donc, que pensez-vous de l'idée de Cyril Hanouna, présentateur d'un grand débat entre deux tours présidentiel avec la pompe et la solennité de ce moment?
On y va franchement?
Oui.
Eh bien, je vais vous dire que c'est lamentable.
Ah bon?
Oui, c'est lamentable.
Pourquoi?
Parce que Pascal, l'époque actuelle, je trouve que j'ai la trouille, je trouve que la France, elle a pris une sacrée claque d'un point de vue et culturel, sociétal. Et alors, non, mais attendez, Hanouna, c'est la référence. Ce que je disais à votre standardiste tout à l'heure, très sympa, entre parenthèses, je lui disais tout à l'heure que Hanouna, c'est devenu la référence culturelle sur les plateaux télé. C'est pas possible, c'est plus possible. Il était bien.
Non, mais moi, je crois pas que ce soit la référence culturelle. Je crois que c'est un animateur qui sait parler et toucher un public jeune avec énormément de talent. Et c'est un phénomène de société et c'est assez rare en télé. Le dernier, c'était De Chavannes, pour tout vous dire. Il y en a un tous les 20 ans, des phénomènes comme Hanouna. On en pense ce qu'on en veut, mais c'est très rare, un phénomène comme ça.
Alors, vous me demandez justement ce que j'en pense. Donc, je vous le redis. Je pense que ce garçon-là, je le respecte, mais je ne suis pas certaine. Je suis pas certaine qu'il soit à sa place. En tout cas, pour les prochains mois, peut-être dans les prochaines années, sûrement, il va encore évoluer. Mais là, non. Je disais à votre collègue tout à l'heure que il n'y avait plus d'émission. Il n'y a plus d'émission. Donc les politiques, les artistes vont principalement dans son émission en soirée parce que ça amène de l'audience. Beaucoup de gens regardent ses programmes le soir, mais ça ne fait pas pour autant un grand animateur intéressant. Il m'insupporte.
Oui, mais parce que c'est subjectif. Et à partir du moment où tu fais de la télé, il y a des gens, moi, que j'insupporte, je vous assure, quand ils me voient, ils coupent la télé et ils coupent peut-être le son quand ils entendent ma voix. C'est la vie. C'est la vie de tous les animateurs de télé, des gens qui font de la télé ou de la radio. C'est la vie. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y en a plus qui ont envie de l'écouter que de gens qui le rebutent?
Alors moi, pour les personnes que je connais, j'ai une vie sociale, et quand même, autour de moi, j'ai des personnes qui ne comprennent pas cet engouement. L'engouement qu'il y a autour de ces émissions.
Mais c'est parce que eux, ils sont peut-être déconnectés, peut-être que générationnellement, ils comprennent pas
Non. Vous faites des généralités, là. Non. Parce que, vous savez, en disant que tout le monde s'intéresse à ces émissions, etc., comme j'ai pu l'entendre auparavant, c'est faux. C'est faux, c'est parce qu'en
fait... Non, moi, je ne dis pas tout le monde. Je dis qu'il parle à un public.
Non, pas vous. Hein, pas vous, personnellement. Je dis vous, peut-être, je ne sais pas, les gens autour de vous, les journalistes, c'est faux. C'est parce qu'on n'entend pas des gens comme moi. Non. On donne la parole, souvent, à des personnes qui rentrent dans le truc. Quoi, voilà, il faut... Voilà, on est tous d'accord. Il faut être d'accord. Il faut aimer. Il faut qu'on aime tous les mêmes chansons, actuellement. C'est pas vrai. Et pourtant, comme j'ai dit à votre standardiste tout à l'heure, j'ai des origines sociales toutes simples, vraiment très simples, avec des parents qui avaient des grosses difficultés avec le français, etc., et qui ont évolué et qui m'ont donné l'envie d'apprendre la France, d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre l'histoire, et surtout de l'aimer, et de continuer d'apprendre sans arrêt. Et je trouve que là, non, on est devenu, même d'un point de vue intellectuel, je trouve qu'on fait la part belle à la fainéantise, intellectuelle même. Et ça se sent pour plein de choses. Ça, je trouve qu'on est mal parti. Les niveaux baissent, on fait appel à des personnes qui sont pas forcément là pour nous donner les bons repères. pour nous inciter à réfléchir. Je suis désolée de vous dire ça, mais je vous dis le fond de ma pensée.
Ben non, au contraire, moi je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites. Et puis, comme vous nous avez fait des compliments, ben on peut vous en faire également. Vous avez une très jolie voix et c'était intéressant de vous écouter. Et puis, on va vous faire un petit cadeau, donc avec une petite musique, rien que pour vous, Gigi.
Ah, laquelle ? Mais oui, Dalida, mais forcément, vous êtes adorable.
Gigi, alors, puisque vous vous appelez Gigi, ça me fait penser également à Alain Giresse, Gigi. Et on parle des Girondins de Bordeaux parce que les Girondins de Bordeaux sont aux portes du...
Ils vont très mal.
Aux portes du dépôt de bilan. Donc si vous voulez réagir sur cette actualité, vous pouvez nous appeler au 32-10. Damien, on marque une pause peut-être ?
Tout à fait, Pascal.
Merci Gigi.
Pascal, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et bon week-end.
Un plaisir, mais vous de même.
Merci.
Allez, au revoir. Nous en avait dit. Il a fallu du temps, du courage et du temps pour arriver à continuer sans lui. Et malgré son absence, la nuit dans le silence.
C'était Gigi, quelle chanson quand même, Dalida. Pareil, c'est les chansons qu'on a écoutées 12 millions de fois. Mais l'émotion est intacte. Et ça va bien qu'aujourd'hui, vous voyez Gigi l'amoroso, un peu de soleil, un peu de bonne humeur. Et quand il arriva... Allez, la pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Laurent Tessier.
C'est la question du jour. Emmanuel Macron sera-t-il réélu en 2022 s'il est candidat à un an de l'élection présidentielle? Le chef de l'État compte 39% d'opinion favorable selon notre baromètre BVA pour RTL, un niveau supérieur par rapport à ses prédécesseurs. S'il se représentait en 2022, 39% des Français pourraient voter pour lui, 61% l'exclut. Christelle Caplet de l'Institut BVA parle d'un socle électoral solide et même plus.
On voit qu'il a potentiellement des réserves de voix chez les sympathisants PS, 40% entre eux nous disent « ce serait possible que je vote pour lui ». Donc on voit que dans ce segment de population, il n'a pas encore un rejet massif. Et c'est le cas dans une moindre mesure aussi pour les sympathisants LR.
Alors Emmanuel Macron sera-t-il réélu en 2022 s'il est candidat? 32-10. Une école maternelle ravagée par le feu hier soir dans un quartier populaire de Lille. Les pompiers ont été pris à partie à leur arrivée avec des tirs de mortiers d'artifice. Les soldats du feu sont-ils des cibles de plus en plus fréquentes? Que devient notre pays? Soupir Hervé sur nos réseaux sociaux. S'en prendre à une école maternelle, des pompiers, ça devient du grand n'importe quoi. Et le gros problème pour Véronique, c'est l'éducation bienveillante. Aujourd'hui, le manque de morale et de civisme à l'école.
Merci Laurent. Peut-être un dernier auditeur pour évoquer Cyril Hanouna. Bonjour Thierry. Vous habitez de la Charente.
Bonjour Pascal.
J'ai eu des informations, on me dit qu'il fait un temps absolument magnifique en Charente aujourd'hui.
Ah, c'est
la plus belle journée, paraît-il, entre vendredi, samedi, dimanche, et la plus belle journée des trois jours.
Il fait très beau, on va pouvoir profiter de notre confinement.
Ah, mais vous savez qu'il fait d'abord souvent très beau en Charente, et il y a un soleil, une luminosité, une clarté tout à fait particulière.
Monsieur est connaisseur de la Charente. Oui.
Non mais c'est vrai, c'est un très joli département. Allez-y Thierry.
Allez, on revient sur Monsieur Hanouna.
Oui.
Alors que les politiques veuillent aller sur son plateau, c'est leur droit et ils en sont bien libres. De là à ce que Cyril Hanouna devienne débatteur d'un débat politique de l'entre-deux tours d'une élection présidentielle, là je pense que c'est pas possible quoi. Ça deviendrait un sketch et c'est. Alors qui touche une partie des. De personnes qui représentent un fort électorat, parce que le taux d'abstention est énorme. Je peux le comprendre, mais quand même, dans la politique à ce niveau-là, c'est des journalistes spécialisés qui ont fait des études, qui ont des sujets pointus, avec des questions précises, qui certes peuvent nous dépasser. On n'a pas tous les connaissances sur l'économie internationale, sur la géopolitique, sur tout ça. Mais c'est des sujets qui doivent être abordés lors d'une élection présidentielle.
Non mais après, ce qui est intéressant...
Sur son plateau, qu'on parle de ces sujets avec des mots simples pour toucher les jeunes, je l'entends. Mais que Cyril Hanouna soit présentateur d'un débat de l'entre-deux tours, là non mais c'est pas l'organisation de la kermesse du village. Hein.
Non mais vous êtes sévère parce que... Vous êtes sévère parce que... Mais parce que... pour traduire parfois la pensée du public, faut le connaître. Et c'est ça qui est intéressant. Vous parlez d'études, mais parfois un médiateur...
Mais Pascal, vous parlez de la représentativité d'un public. Oui. Moi, je vous parle de gérer un débat entre deux candidats d'une élection présidentielle. Mmh. C'est deux choses différentes. Qui viennent sur le plateau et qui posent des questions qui viendraient de son public, comme vous dites, d'accord. Mais qu'il soit le maître du débat, non, c'est pas possible.
La sensibilité populaire, parfois d'un animateur populaire, peut compenser son manque de culture ou sa connaissance des dossiers qui ne serait peut-être pas la même qu'un journaliste pointu. C'est ce que je dis, ça peut s'entendre. Mais je me fais souvent l'avocat du diable dans cette émission.
Je l'entends, mais de là à Thomas Soto, il va pas aller vous faire une demi-heure sur les anges de la télé-réalité sur W9.
Non. Ça, je suis bien d'accord.
C'est un journaliste qui connaît ses sujets, donc chacun son métier.
Mais vous avez raison. Et puis de toute façon, c'est votre ami qui importe.
Quand il y a une maison qui brûle, on n'appelle pas le boulanger. Je suis sévère, mais je veux dire, non, un peu de sérieux. C'est trop sérieux. Comme sujet. Thierry.
En tout cas, comme on en a parlé 50 minutes, on tourne la page. Merci. Allez, et bonne après-midi en Charente.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
La conquête spatiale vous fait-elle rêver? Doit-elle être une des priorités? SpaceX a donc envoyé ce vendredi 4 astronautes, dont le français Thomas Pesquet, vers la Station Spatiale Internationale, 3e mission de ce type du groupe privé depuis que les États-Unis ont repris les vols habités vers l'espace. Et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Et Evelyne est avec nous qui habite Perpignan. Bonjour Evelyne.
Bonjour. Vous parlez de la Charente-Maritime, mais je peux vous dire que les Pyrénées-Orientales, c'est magnifique.
Oui, hein. Là c'était la Charente, elle n'était pas maritime.
Hein. Ah, c'était la Charente.
Voilà, c'était la Charente sans l'océan.
Sans le maritime, oui. Exactement. Bah, écoutez, nous on est gâtés ici, c'est un temps magnifique, une très belle région.
Vous êtes à Perpignan.
Ouais, absolument.
Donc vous préférez être à Perpignan que dans SpaceX?
Absolument. Alors écoutez, moi ça ne me fait pas rêver du tout la conquête spatiale. Je suis désolée, ça coûte très 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 cher d'envoyer des astronautes. Et je pense que on a beaucoup à faire sur Terre avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et vraiment avec toute l'économie qu'on pourrait faire avec l'argent qu'on dépense, ben on pourrait rénover les hôpitaux, on pourrait rénover les commissariats de police, on pourrait faire beaucoup de choses avec cet argent. Moi je pense qu'on peut effectivement faire la conquête spatiale qu'à partir du moment où on a beaucoup d'argent d'avance, voilà, parce que là on a 424 milliards que nous avons dépensé depuis un an. Et ben voilà, donc je suis désolée, on n'a pas d'argent pour participer à cette conquête spatiale. Et en fait, en Europe, le Danemark, la Norvège, tout ça, ils dépensent pas autant d'argent que nous. Donc je comprends pas qu'on veuille mettre le drapeau partout.
Je vais vous faire dialoguer avec François, si vous voulez, parce que François, il habite Orbec dans le Calvados, et il n'est pas du tout d'accord avec vous, puisque ça le fait rêver, François. Donc qu'est-ce que vous avez, François, bonjour, à répondre à Evelyne?
Eh bien, bonjour à Evelyne, bonjour à Pascal. Et bah, moi, ça me fait rêver. Ça me fait rêver parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'on peut toujours trouver une destination à l'argent autre que celle-là. Mais on pourrait aussi dire qu'il y a trop d'engins de guerre qui sont fabriqués, enfin ceci et cela. Mais pour moi, Thomas Pesquet, c'est quand même le Christophe Colomb des temps modernes. C'est-à-dire que lui, il va chercher l'aventure où beaucoup d'entre nous, on l'a vécu qu'à travers soit les livres de Tintin, soit Indiana Jones, l'aventurier. Et lui, il va rester quand même 6 mois dans l'espace. Et il faut être un humain hors norme pour pouvoir y rester, parce que ça, il y a des contraintes physiques, physiologiques, mentales que peu d'humains ont. Et je sais que c'est pas toujours facile d'admettre ceci peut faire avancer la science ou faire avancer ceci ou cela. Et pourtant, il est certain qu'il y a beaucoup d'évolutions au niveau industriel, au niveau pharmaceutique et au niveau chimique qui ont pu être réalisées parce que les expériences ont été faites dans l'espace. Et c'est ça qu'il faut quand même
tenir. Evelyne, vous êtes convaincue ?
Non. Alors je reconnais que Thomas Pesquet, c'est vrai que c'est un homme hors norme, hein, ça c'est vrai, mais bon, il a fait des études pour ça, il a quand même été pilote de ligne et tout. Bon, c'est sa passion, hein, comme d'autres ont des passions, hein, mais moi je suis désolée, moi je pense qu'il vaut mieux d'abord, avant tout, s'occuper de la Terre, de notre Terre. Voilà, il faut combattre la déforestation, il faut combattre... moi je pense que avec cet argent qu'on dépense, on peut faire beaucoup de choses sur Terre. Voilà. Donc, voilà.
Eh bien, François, okay. Moi je vous laisse entre vous.
Eh bien, moi je répondrai à Evelyne que contrairement aux maires écologistes, le rêve des enfants c'est aussi l'espace. Parce que si aujourd'hui on ne rêve pas, eh bien on fait quoi ? C'est vrai qu'on peut toujours trouver une chose à faire sur Terre, mais je pense que la conquête spatiale a été arrêtée pendant assez longtemps et pourtant on a continué à faire une déforestation, on continue à polluer la Terre parce que ça n'a pas de lien direct. Et puis il me semble que c'est un groupe privé qui a organisé cette chose. Donc je ne
pense
pas que
l'État... Officiellement, Space Exploration Technology Corporation est une entreprise américaine spécialisée effectivement dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial. Et elle a été fondée le 6 mai 2002 par l'entrepreneur Elon Musk.
Voilà, donc on peut pas toujours rapporter ça à nos malheurs, car c'est vrai qu'en ce moment on a des difficultés en France, on a des difficultés, mais l'incurie qu'on a vécue ne changera rien si Thomas Pesquet n'avait pas été dans l'espace. Et au moins cet homme-là, il est exceptionnel, et ce n'est pas simplement un voyage commercial qui est fait comme certains peuvent les faire. C'est aujourd'hui vraiment une expérimentation, et Thomas Pesquet, je crois que les derniers temps de ces 6 mois, il sera le commandant de bord de la station, parce que je pense qu'il sera même tout seul.
Evelyne, pour conclure ce petit échange.
Eh bien, écoutez, bon vent, hein.
Bah oui, bon vent dans l'espace.
Monsieur Pesquet, oui.
Et là, il y a les images qui défilent. C'est vrai que c'est fascinant. Tout à l'heure, au moment du décollage, tout le monde à RTL, en tout cas, regardait. C'est vrai que c'est fascinant. D'abord, ce qui est fascinant, c'est que on est toujours en miroir, on se dit est-ce que on serait capable de faire ça ? Est-ce que vous auriez envie même de faire ça ? Je parle même pas d'être capable. Est-ce que vous auriez envie d'être dans cette station ? Alors évidemment, c'est quand même extraordinaire de pouvoir voir la Terre à des milliers de kilomètres.
Six mois, c'est long.
Ça dépend avec qui on est.
Six mois sans voir sa famille, rien, c'est plus qu'un compliment.
Ah, parfois, ça peut être court, mais je blague. On va faire une... pause, et ça sera le journal de 14h, bien évidemment, et ensuite nous continuerons sur SpaceX. À tout de suite, on écoutera Spacer pour SpaceX, tiens.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est 14h. Le flash avec Hortense Crépin, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Thomas Pesquet désormais en orbite autour de la Terre. L'astronaute français a décollé un peu avant midi à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX, direction la Station Spatiale Internationale pour une mission de 6 mois. Il devrait arriver sur l'ISS demain en fin de matinée heure française. Les lieux de culture rouvriront mi-mai si la situation épidémique le permet. Confirmation de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Hier, le gouvernement a annoncé le retour à l'école lundi pour les élèves de maternelle et de primaire, avant la rentrée des collégiens et lycéens une semaine plus tard. Concernant la vaccination, dès demain, les plus de 55 ans pourront recevoir une injection du produit de Johnson & Johnson. 5 jours après le verdict dans le procès en appel des policiers attaqués à Viry-Châtillon, l'IGPN, la police des polices, saisie d'un signalement pour manquement au devoir d'impartialité, de dignité et de courtoisie au cours de l'enquête en 2016, considérée comme tronquée par la défense. Et puis dans l'affaire de l'enlèvement de Mia, sa mère vient d'être extradée vers la France, annonce de la justice suisse. L'opposant russe Alexei Navalny, très affaibli, annonce la fin de sa grève de la faim. Il l'avait démarré le 31 mars pour protester contre ses conditions de détention et se trouve actuellement dans un hôpital pour prisonniers tuberculeux depuis la colonie pénitentiaire où il est emprisonné. Au Japon, le gouvernement déclare un nouvel état d'urgence à Tokyo en raison d'une recrudescence du coronavirus. Une décision à 3 mois du début des Jeux Olympiques. Les JO, justement, où le tennisman Benoît Paire sera persona non grata. Il ne pourra donc pas prétendre à une sélection pour les Jeux à cause de la répétition de comportements profondément déplacés, selon la Fédération française de tennis. Et puis, coup d'envoi de la 34e journée de Ligue 1 à 21h, Reims-Marseille. Rendez-vous dans RTL Foot à 20h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. La météo avec du soleil cet après-midi, des nuages possibles en montagne sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes et la Corse, du vent au nord de la Loire et sur le Pays basque, les températures 16 degrés à Lille, 18 à Nice, 20 à Paris et 26 à Biarritz. Les courses, c'est à Vincennes, départ à 17h30, les pronostics de Dominique Cordier, le 12, le 6, le 9, le 10, le 14, le 11, le 2, la dernière minute, c'est le 14. 14h02 sur RTL et la suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
Merci Hortense.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Tous les jours maintenant qu'on passe Spacer, soit pour parler de Sheila, soit pour parler de SpaceX qui a donc envoyé ce vendredi 4 astronautes vers la Station Spatiale Internationale. C'est la deuxième mission du genre depuis que les États-Unis ont repris les vols habités vers l'espace. Alors on est avec Aude et c'est intéressant parce que Aude, elle a vu le départ avec ses enfants. Bonjour Aude.
Bonjour,
vous allez bien ?
Ça va très bien, merci.
Vous habitez Dijon. Comment ça s'est passé, ce décollage avec les enfants ?
Eh bien, en fait, on était tous installés dans le canapé et on a regardé en direct ce décollage qui était vraiment fascinant. Et mes enfants ont vraiment eu des étoiles dans les yeux. C'était très agréable, en fait, cette sensation en fait, de vivre ça en direct.
Et qu'est-ce qu'ils ont... comment ils ont réagi ?
Alors, en fait, j'en ai un qui est grand, qui est en sixième. Donc, lui, il était assez connecté au niveau scientifique, on va dire. Et le petit de 4 ans était vraiment très émerveillé à regarder où était le cockpit et où étaient les astronautes et tout ça. Voilà,
donc, ils ont 12 et 4 ans.
Voilà.
12 et 4 ans. Alors, et ils ont fait un parallèle avec les jeux vidéo, peut-être, qu'ils ont ?
Non, alors ils jouent pas aux jeux vidéo.
Bon, bah, je sais pas si je dois vous féliciter ou pas. D'ailleurs, de ne pas. Si vous avez su résister aux jeux vidéo, je vous en félicite en tout cas. Parce que la
non,
demande doit être forte.
Jouent, mais non, ils y jouent pas. Non, franchement, non, parce que c'est pas. Bon, ils ont aussi, ils ont un petit truc, mais non, ils y jouent pas trop. Après, c'est plus au niveau écran, par contre. Là, ils sont plus écran. Donc, on a vu les écrans tactiles, comment ils pouvaient. Parce que le petit 4 ans était très étonné comment on pouvait conduire ça sans bouton. Donc, on a expliqué que c'était des écrans tactiles. Donc voilà, même à son âge, il arrivait à comprendre ce qui se passait.
Bon, Audi, il s'appelle comment le plus grand ?
Le plus grand, il s'appelle Alexis.
Et il est près de vous, Alexis ?
Ah non, il n'est pas près de moi, mais je peux l'appeler.
Ah bah, essayez de l'appeler, parce que ce serait rigolo qu'il nous dise comment il a vécu ce moment et ce qui lui a plu. D'abord, il y avait un peu, j'ai remarqué, hein, tout à l'heure, on était tous ensemble, il y avait un peu quand même d'inquiétude. C'est-à-dire qu'on partageait l'inquiétude de ceux qui accompagnent et qui sont dans la salle. Et on sait que pendant, je ne sais plus si c'est 3, 4 ou 5 minutes, il y a quand même un temps qui est... où il peut arriver un accident, forcément.
Effectivement, le plus grand était effectivement un peu plus impressionné par ça, je pense.
Oui.
Vous le passe,
par contre. Ah oui, bah, évidemment que vous nous le passez.
Par contre, je ne lui ai pas dit de quoi ça parlait. Donc,
bah, écoutez,
il sait
qu'il est sur RTL quand même, Aude.
Oui.
Bonjour Alexis, comment ça va ? Tu es en direct sur l'émission Les Auditeurs ont la parole.
Ah, bonjour.
Et, ta maman nous a dit que tu avais apprécié le décollage de la fusée tout à l'heure.
Oui, c'est vrai que c'était impressionnant de voir la fusée qui décollait avec, en pleine puissance. Enfin, c'était une grosse boule de lumière. On n'arrivait pas à vraiment distinguer la fusée, en fait, tellement qu'elle faisait de lumière.
Et est-ce que tu as été un peu inquiet pendant la période justement de lancement ?
Non, pas vraiment, mais c'était quand même très stressant. Je me mettais à la place de Thomas Pesquet, je me disais quand même que c'était oui.
Est-ce que toi, ça te fait rêver ?
Oui, ça doit quand même être beau de voir la Terre du ciel.
Et par exemple, alors tu as 12 ans, évidemment, c'est très très jeune, mais si on te disait, on t'emmène pendant 3 jours autour de la Terre, comme ça, pas 6 mois, hein, parce que 6 mois c'est trop long, mais 3 jours, dans une fusée, on te prépare pendant un certain temps, est-ce que tu aurais cette curiosité-là ?
Bah, je pense que ouais, je pourrais accepter parce que c'est quand même très impressionnant de pouvoir voler dans une fusée. Ça doit être bien.
Et puis effectivement, c'est l'occasion de voir la Terre du ciel comme on ne la voit jamais.
Ouais, oui, oui. Parce que en fait, le plus souvent, on est dessus, mais de la voir du haut, quand on la voit une fois dans sa vie, après, on se rend compte d'où est-ce qu'on est sur Terre, en fait.
Ben c'est super ce que tu dis. Franchement, Alexis, c'est presque métaphorique et poétique ce que tu dis, donc c'est super. Tu sais déjà, par exemple, ce que tu as envie de faire plus tard ?
J'aimerais être designer automobile de course.
Ah oui, ben c'est très très précis. Comment c'est arrivé ?
Bah, en fait, j'ai aimé les voitures pendant un certain temps, et puis après, j'ai voulu... essayer d'inventer ma voiture, dans ma tête. J'ai demandé à mes parents si c'était possible. Et ils m'ont proposé ce métier-là pour dessiner des voitures, et ça m'a plu.
Et tu continues de les dessiner, là, régulièrement ?
J'ai installé des applications sur mon téléphone pour pouvoir dessiner des voitures, étape par étape. Comme ça, du coup, je m'entraîne pour plus tard. Et j'ai déjà réussi à créer une sorte de moteur dans mon esprit, on va dire.
Merci beaucoup, Alexis. Merci, tu me repasses ta maman ?
Merci, au revoir.
Merci Alexis. Tu me repasses ta maman ?
Oui.
Dites donc, vous avez un phénomène avec vous.
Ouais, ça va, on s'ennuie pas.
Ah oui, mais puis il est précis, j'imagine que ça doit bien aller à l'école.
Ça va.
Non, mais il est bien. Il est bien.
Oui, c'est intéressant à cet âge-là de bien parler avec eux.
Bah oui, parce que je suis d'accord avec vous. Alors, c'est le dernier âge, vous allez voir, hein, 12 ans après, 13 ans, 14 ans,
oui.
Là tu bascules dans l'ado, il va monter dans sa chambre va devenir une grotte, et vous ne pourrez plus, pendant quelques temps, ça s'appelle l'adolescence, hein. Mais bon, on est tous
passés
par là.
Oui, c'est mes derniers moments, donc je...
Il est sympa, il est vraiment sympa, et alors, c'était ce qu'il a dit, vous étiez à côté, c'était vraiment...
Oui,
c'était ce qu'il a dit sur la...
Une bonne transcription.
Exactement, la motivation d'aller voir la Terre d'où on peut la voir lorsqu'on est dans le ciel, c'était super. Merci, voilà. Aude.
Mais de rien, pas de souci.
Merci. Alors ça, c'est Alexis, et l'autre, c'est un garçon ou une fille ?
Et l'autre, c'était Roméo, et c'est un garçon.
Alexis et Roméo, c'est des jolis prénoms.
Il y avait aussi une fille au milieu, qui a regardé aussi.
Vous avez trois enfants ?
Oui, j'ai trois enfants. Ouais, je m'en
et dis comment elle s'appelle, la fille ?
Et la vie, elle s'appelle Lison.
Lison, voilà. Roméo et Alexis. Voilà. Écoutez, merci Aude. Merci beaucoup, bonne journée du côté de Dijon.
Au revoir, à bientôt. Merci.
Merci, c'était super. La pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Ça, c'est une bande originale plus rock, plus pop. C'est Life on Mars de Bowie ?
Tout à fait.
Ah, bon choix.
Merci, Pascal.
Bonsoir, madame.
Merci.
Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Nous sommes avec Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre.
Oui, bonjour, Pascal.
Et merci d'être avec nous. Alors, SpaceX, qu'en avez-vous pensé ?
C'est formidable. J'ai regardé ça à la télévision, bien sûr, parce que c'est quelque chose de fabuleux. Et comme j'ai expliqué à votre collaborateur... je suis un fervent de l'aviation et je suis allé à Cape Canaveral en Floride pour assister au décollage de la navette spatiale il y a quelques années. C'était un Français, Léopold Erhard, je crois son nom, si je ne fais pas une erreur de prononciation. Et c'était vraiment fabuleux. On était à 5 kilomètres du départ de la fusée de la navette. Mais ce qui m'a bluffé, et même aujourd'hui, c'est la précision. À la seconde près, on vous dit top, ça part, et ça décolle d'une façon magnifique. Malheureusement, le spectacle ne dure pas longtemps parce que ça va très vite. Mais il y a quand même quelque chose de fabuleux, de magnifique. Et quand on voit toute cette technologie, tous ces ingénieurs, toutes ces têtes qui pensent et qui mettent au point ces systèmes, c'est fabuleux.
Pourquoi vous étiez allé là-bas, à titre personnel ou professionnel ?
Non, pas personnel.
Donc vous aviez pris quelques jours de vacances peut-être pour aller assister à un décollage.
Exactement.
Mais qu'est-ce qui...
Je suis allé deux fois parce que la première fois, c'était le même astronaute qui devait décoller, mais il y a eu un problème technique, ils ont reculé le vol. Et je crois que c'est 2 ans ou 3 ans après, la navette est repartie et donc c'était toujours le Français qui partait pour aller dans l'ISS.
Et j'imagine qu'en 69 alors, lorsque Armstrong a marché pour la première fois sur la ligne, sur la Lune, vous avez ressenti une émotion particulière parce que vous êtes un fan absolu de l'aérospatiale.
Oui, mais écoutez, malheureusement, à cette époque-là, en 69, si on avait la télé, mais je me souviens plus, j'ai pas eu l'occasion de le voir en direct, je l'ai vu après. Mais c'est quelque chose de fabuleux. Mais est-ce que je reviens à l'auditrice tout à l'heure qui parlait de ça servait à rien apparemment la conquête spatiale. Mais si elle peut téléphoner, c'est grâce aux satellites qui tournent autour de la Terre et ainsi de suite. Si elle a des vêtements spéciaux pour se protéger du froid, ainsi de suite, les couvertures de survie, c'est tout ça, c'est de la conquête spatiale.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une utilité aussi de la conquête spatiale dans nos vies quotidiennes. Chacun le dit, il y a beaucoup d'exemples. Ben, merci beaucoup Jean-Pierre de ce dernier témoignage.
Ben, merci beaucoup à vous de m'avoir laissé à l'antenne et puis bonne continuation, peut-être à bientôt.
Merci à vous et puis vous allez voir les images toute la journée de Thomas Pesquet. Alors, il est à 400 km, je crois que la station elle est à 400 km de la Terre, elle n'est pas si éloignée que cela.
Petite précision, moi je suis donc toujours abonné à ça. Sur le site de la NASA, vous avez une possibilité d'être averti lorsque la station passe au-dessus de vos têtes.
Oui, mais il est à 400 km, nous sommes d'accord. La station, elle est à 400 km au-dessus de la Terre.
Exactement, elle est à 400 km et elle tourne à 28 000 km/h.
Alors ce qui est dur et long, c'est ce qu'on appelle l'arrimage.
Bah oui et non, parce que vous avez remarqué, tout se fait automatiquement. Bien sûr, il y a une possibilité de le prendre en manuel, mais tout se fait automatiquement. Il faut regarder la précision avec laquelle toutes ces opérations se font. C'est vraiment de la technologie, c'est formidable.
Ben merci beaucoup Jean-Pierre et bonne journée en Seine-et-Marne.
Bonne continuation, merci beaucoup.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron sera réélu l'année prochaine ? C'est la question du jour. Réélu en 2022, un an de l'élection présidentielle, le chef de l'État a 39% d'opinion favorable selon notre baromètre BVA pour RTL. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est François qui est là, qui habite les Yvelines. Bonjour François.
Bonjour Pascal. Moi ce que j'en pense, je pense qu'il sera réélu. Hein. Je crois qu'il fait tout pour, il fait tout pour. Moi je ne le souhaite pas du tout. Mais
il fait tout pour être réélu ou pour ne pas l'être ? Certains trouvent qu'il fait tout pour ne pas être réélu.
Non, il fait tout pour être réélu. Il a quand même pas mal de moyens à sa disposition. Hein. Donc les moyens de l'État, déjà il est en campagne. Hein. Je pense que les comptes de campagne, je crois que ça démarre un an avant, mais je crois qu'il est déjà lui en campagne. Donc tout ça, c'est pas décompté. Il a quand même certains médias, certains appuis dans les médias.
Et je Par pense exemple, que donc, quels sont les médias qu'il soutiennent ? Ça m'intéresse. Hein.
Les médias qu'il soutiennent, BFM, je crois, est quand même pas mal...
À vous trouver ?
Pas mal en soutien, oui.
L'important, c'est comment vous le ressentez ?
Disons que tous les médias, mais ils sont peut-être plus ou moins obligés de le faire, centrent toutes leur communication sur lui.
Quand tu es président de la République, tu en parles beaucoup, mais j'ai plutôt le sentiment qu'il est souvent attaqué, pour tout dire, dans les médias.
Bon, alors admettons qu'il soit attaqué un peu, oui, c'est vrai. Sur CNews, notamment, votre chaîne est très, très bonne chaîne. Mais...
Certes, mais pas que sur CNews. Vous écoutez, il est attaqué comme tous les journalistes peuvent attaquer d'ailleurs la vie politique, comme Jean-Luc Mélenchon peut l'être, comme un président de la République peut l'être, comme Nicolas Sarkozy l'a été, comme François Hollande l'a été. La parole est plutôt libre.
Non, mais disons que ce qui fait sa force, c'est effectivement sa présence. Ça vous a pas échappé qu'on parle beaucoup de lui, là. Encore, vous parlez de lui, vous parlez pas des autres. Mais c'est parce qu'il est président. On est d'accord avec, je suis d'accord avec vous, mais il faudrait quand même un peu mieux équilibrer d'une façon générale, quel que soit le président, hein. Et vous avez raison, c'était la même chose sous Hollande. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense qu'il faudrait peut-être un peu mieux équilibrer.
En tout cas, vous pensez qu'il sera réélu. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un an de la présidentielle, je le disais tout à l'heure, dans 9 cas sur 10, celui qui a été réélu ou élu n'était pas favori. Donc en 80, au printemps 80, un an avant l'élection de François Mitterrand, Giscard, il est largement devant. En 88, c'est un des rares cas où un an avant, effectivement, François Mitterrand est plutôt bien placé. En 95, Chirac était tellement dans les choux qu'on se demandait s'il allait finir la campagne présidentielle et c'était Balladur qui était au sommet. En 2001, on n'imagine pas Chirac réélu à sa propre réélection. En 2006, c'est différent parce qu'effectivement, Nicolas Sarkozy était bien placé. En 2011, François Hollande élu, mais c'était même pas une hypothèse puisque DSK était, il faisait 3%, François Hollande. Et en 2016, eh bien Emmanuel Macron, au printemps, un an avant, convenait que il y a pas un Français sur 10 qui aurait misé un centime sur lui.
Oui, enfin, mais les sondages aujourd'hui disent qu'il sera réélu. Et je vois pas très bien comment les sondages pourrait vraiment.
Ben oui, mais ce que je vous dis là, c'est que les sondages n'étaient jamais pour celui qui a été élu.
Oui, mais d'accord, mais il peut l'avoir été, il l'a été. Vous dites que c'est pas dans 100% des cas déjà. Et,
non, il y a deux cas, effectivement, en 88. Quand Mitterrand est élu, effectivement, quand il est réélu, au printemps 87, déjà, il était sans doute bien placé. Et il a été gagné largement, d'ailleurs, devant Jacques Chirac. Mais restez quelques secondes avec nous, parce qu'on va marquer une pause, et puis vous allez pouvoir conclure.
Merci.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
François, pour conclure, donc vous pensez qu'Emmanuel Macron sera réélu contre qui, à votre avis, François ?
Ah ben moi j'espère que ce sera contre Xavier Bertrand. Non, c'est pas du tout ça ma pensée. C'est que s'il est contre Xavier Bertrand, il sera battu. Mais s'il est contre Marine Le Pen, bah il sera effectivement élu. Mais voilà, mais c'est pas du tout ce que je souhaite, hein, personnellement. Je souhaite pas.
Mais
du
c'est
tout
un pronostic effectivement politique. Alors Franck est là également et ce sera notre dernier auditeur dans cette édition et ce sera le dernier auditeur de la semaine. Bonjour Franck. Franck, une fois. Oui, Franck.
Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Vous
bonjour Franck, vous êtes infirmier, vous habitez oui. Nice. Alors, Macron exactement. Ou pas Macron pour la prochaine
Macron
élection
Macron, premier tour en 2022.
Et vous étiez un électeur d'Emmanuel Macron il y a 5 ans.
Au second tour, mais pas au premier tour.
Et cette fois-ci, vous serez au premier tour avec lui.
Ah, ben évidemment. Évidemment, déjà, ce qu'il y a en face, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mmh. Et en plus, son bilan, il est quand même meilleur que celui de Sarkozy et de ses deux prédécesseurs. Je pense qu'il n'y a pas photo, donc il mérite d'avoir une seconde chance, un deuxième mandat. Deuxièmement, ben moi, je paye plus de taxes d'habitation, donc j'ai quand même gagné un certain pouvoir d'achat, je ne m'en cache pas. Si je paye à Nice 800 euros de taxes d'habitation annuelles, donc multiplié par 3, on fait le calcul. Les heures supplémentaires défiscalisées, je peux en bénéficier. Donc il a repris ce que Sarkozy avait mis en place et ce que Hollande avait fait. Donc je coche la case Macron au premier tour. Quoi d'autre je pourrais dire encore il a plutôt un bilan qui est moi globalement positif. Après s'il met une femme premier ministre à la place de Jean Castex, je valide et j'ai même déjà ma petite idée. Et ensuite quoi dire d'autre et puis il peut pas se représenter en 2027, il est réélu en 2022. C'est la petite boutade et la petite blague pour faire réagir les auditeurs puisque la réforme de Chauvin et Chirac, c'était deux mandats consécutifs et après il peut pas se présenter pour un troisième mandat. Donc voilà, c'est très bien.
Et eh bien merci Franck, bien. Merci.
Voilà, voilà pour vous.
Merci
Jean
beaucoup, c'est l'heure.
À très très bientôt.
Merci à vous, c'est l'heure du débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Et mesdames, messieurs, Emmanuel Macron vous le rappelle.
Bonjour, nous sommes vendredi.
C'est la phrase de Marlène Schiappa dans Le Monde qui vous a fait réagir au 32-10 en 2022. C'est Cyril Hanouna qui devrait co-présenter le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Et l'idée ne plaît pas du tout à Jacques.
Cyril Hanouna, c'est vrai qu'il s'est parlé aux jeunes de ce côté-là. Il ne faut pas le nier. Mais je pense que Marlène Schiappa, franchement, il faut qu'elle arrête de dire des conneries. Quoi. C'est bon.
Thierry, qu'en pensez-vous également ?
C'est pas possible. Quoi. Ça deviendrait un sketch. Et c'est... Thomas Soto, il va pas aller vous faire une demi-heure sur les anges de la télé-réalité. Sur WF. Quand il y a une maison qui brûle, on n'appelle pas le boulanger. Enfin, je sais, chacun.
Mais Damien est plutôt séduit par une présence de Cyril Hanouna.
Moi, je pense que ça pourrait emmener l'écoute à une population un peu plus élargie. Pour moi, qui n'est pas un très haut niveau scolaire, c'est complètement difficile de tout comprendre. Alors que Hanouna arrive à poser les questions d'une manière un peu plus simple, on va dire, pour que tout le monde puisse le comprendre. Et il a les questions d'une grande part de la population française.
Et aujourd'hui, dans l'émission, Gigi était heureuse de vous avoir, Pascal.
C'est extraordinaire de vous avoir en ligne.
Ah bah, j'en suis bien content, Gigi.
Oh, bah écoutez, on vous regarde, on vous entend et c'est un réel plaisir, mais alors là, c'est carrément, on est dans le live total. C'est formidable. C'est pas le week-end que je vais passer.
Et forcément, le prénom Gigi vous donne des idées, cher ami.
Et quand il arriva,
Mais mesdames, messieurs, l'heure est grave. Une nouvelle attaque de Pascal Pro contre notre réalisateur Greg Carononi a eu lieu hier, celle de trop.
On comprend pas quand vous parlez, il faut articuler.
Pardon, j'arrête de parler, laisse tranquille.
Non, vous êtes
Je me retire. Pour la peine, je ne serai pas là demain, voilà, c'est dit.
Pourquoi vous n'êtes pas là demain?
Parce que je n'articule pas bien, vous me remettez en cause, mais non, je me retire.
Mais vraiment, la susceptibilité, la sensibilité des faibles, disait je ne sais plus qui.
Alors, musique de suspense, s'il vous plaît, en régie. Greg Carononi dit l'homme aux 15 doigts, tellement il y a de son dans cette chronique. A-t-il mis sa menace à exécution? N'a-t-il que des...
Paroles.
A-t-il été absent de l'émission? Le verdict en exclusivité.
Monsieur Béchiot, qui est là aujourd'hui, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour tout le monde.
Et merci d'être avec nous.
Où êtes-vous? Monsieur Carononi, honteux en tout cas. Monsieur Nicolas Sarkozy, une réaction?
Quelle indignité.
Oui, Pascal, dites quelque chose à Greg.
Et vous êtes un petit bobo.
Oh, ça c'est la punchline. Et cette semaine, l'ambiance était muy caliente entre Flavie et Pascal. Faut-il tout dévoiler, montrer au grand public ce qu'il s'est passé ces derniers jours?
Lâchez-vous.
Ah, et ben allons-y. Mais s'il vous plaît, nous sommes une émission sérieuse.
Pas de familiarité, voulez-vous? Pas de familiarité.
Vous avez raison, mais oui, des enfants peuvent nous écouter. Musique de circonstance.
Des bisous partout.
Ah, les bisous, c'est de l'histoire ancienne, c'était dans le monde d'avant.
C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas fait des bisous.
Mais oui, parce que...
Ça fait combien de temps? Ça fait plus d'un an?
Ça fait depuis ce matin.
Attendez, depuis ce matin, ai-je bien entendu? Je demande la VAR, l'arbitrage vidéo, s'il vous plaît, Damien Béchiot.
Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait des bisous.
Mais oui, parce que...
Ça fait combien de temps? Ça fait plus d'un an?
Ça fait depuis ce matin.
Depuis ce matin, coquinou, on découvre des choses ni vues ni connues. Oui, Flavie, qu'y a-t-il?
Et puis des bisous partout, alors ça, on l'a jamais fait.
This is CNN Breaking News.
Une réaction, ami Pascal, vous devez prendre la parole.
Oh bah, je vous en prie, enfin. Je veux dire, nous avons des vies, Flavie Flamand.
Absolument, mon cher ami.
Avec des amoureux, des amoureuses. Donc, s'ils nous entendent, que vont-ils penser de cet échange?
Oh, ils nous connaissent.
Oui, nous imaginons très bien la réaction de Madame Pro quand Pascal va rentrer à la maison.
Ma biche, je peux tout vous expliquer.
Inutile, je vous ai vu sous mes fenêtres avec cette fille.
Il est bientôt l'heure d'En effet pour s'entendre.
Nous savons nous tenir, donc nous ne lui ferons pas de bisous, mais nous la saluerons avec tous les égards dus à son rang. Flavie Flamand arrive.
Avant de se quitter, un petit programme sympa pour le week-end, Pascal, pour éviter de s'ennuyer à l'heure du couvre-feu.
On danse avec le petit doigt. On se tient par le petit doigt.
On descend dans la rue et on se met tous un doigt dans le cul. Ouais, ouais, ouais.
Un mot, Flavie, sur cette belle ambiance pour terminer la semaine.
Bravo, félicitations.
Merci, Flavie. Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On va se quitter avec un peu plus de poésie et d'amour profond.
Mon cœur te dit je t'aime. Il ne sait dire que ça.
Là, vous êtes surpassé, c'est magnifique.
Il fallait être à la hauteur de Thomas Pesquet.
Ah non, mais là, vous nous avez envoyé dans les étoiles, dans la 7e ou 8e dimension. Flavie Flamand dans une seconde.